À l'hôtel, un serveur me tendit un petit ballon de cognac et me conduisit jusqu'à une salle de billard dans le fond. J'étais arrivé en avance, mais les autres étaient arrivés plus en avance encore. Même s'ils levèrent tous les yeux lorsque j'entrais, ils s'empressèrent de les baisser à nouveau. Nul ne croisait le regard d'autrui, nul ne parlait, nul ne chuchotait. Chacun d'eux assis autour d'une longue table en acajou. Ils tripotaient leurs boutons de manchette ou faisaient tourner les bagues à leurs doigts. Nous fûmes 11 une fois que j'eus pris place. Je m'attendais à des femmes uniquement, les femmes et les enfants d'abord, cette vieille rengaine, mais il y avait presque autant d'hommes parmi nous. Et je m'attendais à ce que ces femmes soient riches, l'histoire du Titanic a de nombreuses moralités et voici la principale, survie des plus aptes. Les plus aptes, en l'occurrence, étaient les passagers de première classe. Nous n'avions assurément pas besoin du Titanic pour nous enseigner cela. Je jurais entendre les regards furtifs de quelqu'un tombé dans le cognac, ploc, floc, mais non. Une vieille dame plongeait des morceaux de sucre dans sa boisson. Puis elle se mit à remuer, remuer, remuer avec la pince. Nous nous félicitions du vacarme atroce, du tintement de l'argent contre le verre, parce qu'il constituait pour nous une excellente diversion. Ne cessera-t-elle son remuage ? Je sentais nos cœurs s'unir dans notre détestation de cette femme et du bruit qu'elle faisait. La salle de billard avait été une chapelle, et nos sièges étaient d'impitoyables bancs d'église taillés au couteau par des moines. Nous bougions, soupirions et retirions des échardes de nos soies et tweeds. Lorsque la loi de séparation des églises et de l'État avait été promulguée en 1905, moins d'une décennie auparavant, la France avait cédé le titre de propriété de ce monastère, l'un des plus anciens de Paris, à un hôtelier s'emparant des biens sacrés. L'hôtelier avait conservé les bancs, les tapisseries, les vitraux et même les courants d'air froid qui gémissaient le long des murs tels des cantiques de plaintes, faisant du lieu une pittoresque relique pour touristes. L'hôtel conservait tout excepté les moines, qui avaient été promptement chassés. J'avais poussé un vieux landau branlant jusqu'à cette chapelle pour y rassembler leurs livres de cantiques au papier d'une légèreté de plume et leurs ouvrages de prière à couverture de cuir si douce que l'on pouvait dormir avec l'un d'eux glissé sous la tête, l'ensemble acheté pour de la menue monnaie. Depuis, je les ai vidés à mon établi, afin de les vendre comme jolies petites boîtes à bijoux dans lesquelles mettre vos bagues et boutons de manchette, ou coffres secrets dans lesquels cacher vos objets précieux sur une étagère. Tant de livres dans mon magasin valaient davantage une fois que j'en avais ôté les entrailles. Quand nous ne nous fuyons pas du regard, nous observons la décoration au milieu de la table. Un modèle réduit de bateau, très probablement le Titanic lui-même. Je comptais les chaloupes, puis je les recomptais. Enfin, l'homme à côté de la femme au morceau de sucre, un Britannique chauve, lui posa la main sur le poignet, arrêtant le remuage. Mais le brusque retour du silence nous fit regretter le cliquetis de la pince. L'homme se chargea de parler en premier.
« J'ai l'impression que nous attendons un inspecteur de police, » dit-il. « Nous avons été réunis comme dans les derniers chapitres des histoires d'affaires criminelles de la patronne. »
Il pencha la tête, avec un petit tic nerveux, une petite secousse en direction de la femme. La patronne elle-même, supputai-je, Madame Morceau de Sucre.
« Qui a dit quelque chose sur des affaires criminelles ?»
lança une voix aiguë venant d'un homme au bout de la table.
« Moi, bien sûr, » répondit Monsieur Morceau de Sucre. « Vous m'avez entendu à l'instant. »
Personne n'a dit quoi que ce soit sur une affaire criminelle, rétorqua l'autre. Je ne resterai pas ici à écouter parler de ça.
Pourtant, il resta. Je me demandais si je mentirais après réflexion. Si nous nous présentions tour à tour, avouerais-je que je ne m'étais pas approché de cet iceberg ? N'importe quel groupe de survivants du Titanic avait absolument le droit d'être dégoûté par des individus de mon acabit. Le navire avait à peine eu le temps d'atteindre le fond de l'océan que les imposteurs affluaient comme des rats. N'importe qui pouvait se voiler dans des vêtements de deuil pour recueillir l'aumône. Je ne supportais pas de les tromper, mais je ne supportais pas non plus de les offenser. Je ne pourrais jamais connaître la peur qu'ils avaient connue, non seulement lorsque le navire avait sombré, mais tandis qu'ils dérivaient dans leur chaloupe attendant leur perte. Le néant était partout. Une fois que vous avez vu une nuit aussi noire, revoyez-vous jamais la lumière du jour ?
Tout le monde a-t-il reçu son invitation à l'intérieur d'une bouteille ?
Demanda une femme. Elle portait un chapeau en velours noir au bord tombant. Sa robe rouge scintillait et s'assombrissait dans la lumière de la lampe. Cela donnait l'illusion que les merles brodées sur la soie s'envolaient et battaient des ailes, comme si le coup de fusil d'un chasseur venait d'éclater.
« Ou mon invitation était-elle particulièrement théâtrale ?
Elle attacha beaucoup d'importance à ces mots, particulièrement théâtrales, les T résonnant contre son palais, les L et les R roulant avec lenteur les uns sur les autres. Je la reconnus. La grande Delphine Blanchet, la tragédienne de la scène de Paris, célèbre pour être morte de 100 morts différentes. Au cours des décennies, elle avait expiré sur scène en raison de la tuberculose, de la scarlatine, du choléra, de la variole, de l'arsenic, de la strychnine, de l'antimoine, du désespoir, de la nostalgie, du chagrin. La France lui avait donné un surnom, la pleurnicharde. Mais était-ce vraiment Delphine ? J'avais lu ces listes des vivants ou morts de Z à A et de A à Z, les examinant pour voir si je demeurais perdu en mer. J'aurais remarqué que Delphine avait survécu. Je n'aurais pas eu à regarder bien attentivement. À Paris, elle aurait fait la une jour après jour. Vive la pleurnicharde ! Chacun sortit son invitation. Un homme avait même apporté la bouteille mystérieusement intacte, le mot mystérieusement encore à l'intérieur, le bateau mystérieusement non déplié. L'homme à la voix aiguë s'exprima de nouveau. « Lequel d'entre vous est responsable de ceci ? Et que voulez-vous de nous ?» Monsieur Morceau de Sucre parla ensuite, un compagnon jovial vraiment, qui n'avait pas conscience des tensions.
« Les histoires d'affaires criminelles de la patronne contiennent parfois des invitations, n'est-ce pas, chérie ? » dit-il. « Et des lettres et d'autres choses de ce genre. As-tu déjà écrit une histoire où il y avait un message à l'intérieur d'une bouteille ?»
Il n'avait donc pas fait allusion à des histoires d'affaires criminelles que la patronne lisait simplement. Il sous-entendait celle qu'elle écrivait. Je compris que c'était la femme sur laquelle j'avais lu des articles. Elle écrivait des romans policiers sous le nom de plume de Penelope Quinn. Elle avait réservé une place à bord du Titanic pour aller voir son éditeur à New York, mais l'éditeur, Pingre, lui avait sauvé la vie en insistant pour qu'elle effectue une traversée moins coûteuse. L'anecdote avait figuré dans tous les journaux. Une femme qui raconte des histoires de mort évite la mort qui la menaçait. Je m'étais demandé si c'était vrai, s'il ne s'agissait pas d'un pur coup publicitaire. Quoi qu'il en soit, tromper le destin était favorable aux ventes. Je n'avais pas vendu un seul de ces livres personnellement. En revanche, la librairie au bout de ma rue avait constaté une hausse. Celle qui se trouvait une rue plus loin aussi. Et là, vous voyez une partie de mon piètre sens des affaires. J'avais acquis une librairie dans un quartier qui en regorgeait. De surcroît, un peu au-delà s'étendait la rangée d'étalages des bouquinistes le long du quai de la Seine. Penelope Quinn parla alors, mais elle semblait n'avoir guère écouté.
« On peut ouvrir une enveloppe cachetée sans que personne le sache. »
Elle n'articulait pas très bien, et ses joues étaient d'un rose proche du rouge sang. Je la soupçonnais de n'avoir pas bu qu'un seul verre de cognac avec des morceaux de sucre.
Du moins, on pouvait avec certaines cires anciennes. Il suffit de tenir le cachet au-dessus d'une flamme, ensuite on peut le retirer intact, de manière à le recoller plus tard, après avoir lu la lettre et l'avoir remise dans l'enveloppe. Oui, c'est très simple quand la cire est d'un genre qui s'y prête. Une fois qu'on a chauffé le cachet au-dessus d'une bougie, on peut le retirer avec une moustache de chat.
Une moustache de chat, murmurèrent les gens peut-être par politesse. Je me doutais qu'ils étaient en fait tous désireux de murmurer quelque chose sur un sujet insignifiant. Alors s'éleva une voix de femme, à la douceur de satin mais teintée d'un léger sarcasme.
Séparez-vous le chat de la moustache au préalable ?
Dit-elle. Zinia, découvrirai-je ensuite. Zinia était une grande femme japonaise avec un accent américain. La faisait paraître encore plus grande sa chevelure, entièrement rassemblée, enroulée et maintenue en hauteur par trois peignes d'ivoire à longues dents. Je l'observais du coin de l'œil afin d'examiner les peignes et me rendis compte qu'ils étaient taillés en forme de bateaux à voile, des bateaux d'ivoire dans un océan de cheveux d'un noir lumineux, comme s'ils avaient été lavés à l'encre de sèche. C'était avant que la guerre ne commence à raccourcir les longues jupes des dames, avant que les rations de tissu, la commodité et le défi ne fassent remonter les ourlets au-dessus de la cheville et le long du mollet pour s'arrêter pendant un temps au-dessous du genou. La robe de Zinia allait en sens inverse. Plus longue que la majorité, elle couvrait ses chaussures d'une traîne de mariée, tourbillonnait à ses pieds. Une hermine ornait ses épaules et pourtant, je ne sais comment, l'étole de fourrure neigeuse semblait aussi estivale que cette chaude journée d'août. Tout le monde à la table regarda l'écrivaine dans l'attente d'une réponse. D'abord, Penelope Quinn nous considéra, interrogatrice, et elle finit par déclarer en toute sincérité
« Eh bien, je suppose que la tâche serait beaucoup plus aisée si le chat n'était plus relié à la moustache, ne le croyez-vous pas ?»